ensemble sur Calad.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calad.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calad. Nous sommes le mercredi 24 mai 2023. Il fait beau dans le Beaujolais. On a quelques petits nuages, mais on aperçoit le soleil et c'est déjà pas mal. Et quant aux températures, eh bien, elles montent à 21 degrés. Dans notre émission, on va retrouver aujourd'hui Charline Simian, diététicienne nutritionniste, pour nous parler de diététique et de nutrition. On a rendez-vous avec le prof Patrick également en fin d'heure pour nous parler économie et société. Mais d'abord, en première partie d'émission, eh bien, on accueille notre invité du jour, c'est Enzo Guérin qui est avec nous en studio. On l'avait déjà reçu il y a 6 mois à peu près pour nous parler de son entreprise Seau Propre, entreprise de nettoyage qu'il a créée à 18 ans. On va parler à nouveau de création d'entreprise, on va pouvoir surtout s'intéresser à l'évolution de ce projet, son développement et puis ses envies pour le futur. Mais d'abord, eh ben, comme d'habitude, un peu de musique pour commencer. On écoute un groupe appelé Keep Dancing Inc. et un morceau qui s'appelle Startup Nation. On est ensemble sur Calad. Il est 12h14. Merci d'être avec nous. Startup Nation de Keep Dancing Inc.
Ensemble sur Calad. 100.9 Calad.
Allez, aujourd'hui avec nous en studio, on accueille Enzo Guérin. Bonjour.
Bonjour Mathieu, vous allez bien?
Ça va et vous?
Ça va bien, je vous remercie.
Vous êtes chef d'entreprise?
Oui.
De l'entreprise qui s'appelle Sopropre.
C'est ça.
On vous a reçu il y a 6 mois à peu près, c'est ça?
Oui, c'est ça, fin d'année dernière, c'est ça.
Et pour parler de cette entreprise que vous avez créée tout récemment, en juin de l'année dernière.
Juin 2022, le premier, ouais. C'était le jour de mes 18 ans. On a fait le briefing, on va dire 6 mois après, et maintenant encore 6 mois après, on va voir ce que ça donne.
Pour rappel, créer une entreprise à 18 ans, c'est un petit challenge. Ça demande quoi de créer une entreprise?
À 18 ans, ça demande déjà des ressources, premièrement. Ouais. Le nettoyage, on l'avait vu ensemble lors de la précédente chronique, c'était, on va dire, un peu une niche, parce que ça demandait peu de ressources par rapport à d'autres domaines, mais ça demande surtout, je pense, de la détermination. Le fait de croire en soi aussi et le fait d'être sérieux et rigoureux dans tout ce qu'on fait. On ne peut pas faire les choses à moitié parce que on en récoltera les conséquences. Donc être rigoureux à 100% dans tout ce qu'on fait et déterminé à 100%, ça permet après justement de faire fonctionner ça comme il le faut.
Ouais. C'est un projet, l'entreprise elle a officiellement été créée du coup le 1er juin, mais j'imagine que vous l'aviez déjà en tête longtemps avant.
Plusieurs mois avant déjà, j'étais en train de réfléchir justement à l'idée, comment se faire connaître, trouver des clients. C'est vrai que réellement on va dire que ça va faire depuis janvier 2022 que je me suis mis dans ce projet-là, et depuis le 1er juin justement que ce projet a pris forme comme il le faut.
Donc Sopropre aujourd'hui, c'est quoi?
Alors Sopropre aujourd'hui, en fait, c'est une entreprise de nettoyage destinée aux particuliers, aux professionnels. Alors pour les particuliers, ça va être du nettoyage à domicile, du nettoyage de vitres, de terrasses, de piscines, d'espaces verts. Ouais. Et pour les professionnels, ça va être aussi de la vitrerie, les vitrines de magasins comme on peut voir, les vitres de bureaux, mais aussi des bureaux, des locaux, des fins de chantier, etc. Et l'idée en fait de cette société de nettoyage, c'est de proposer, on va dire, un service de qualité premium à des prix très attractifs. On est agrémenté par exemple avec le service SAP, service à la personne, qui nous offre 50% de déduction fiscale pour les particuliers et 25% de déduction fiscale pour les professions libérales.
Okay.
Et ça va nous permettre du coup, de proposer des prestations premium à des prix très attractifs.
D'accord.
Donc depuis 6 mois, depuis qu'on s'est vu, ça a évolué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on lance un nouveau service, l'idée d'être apporteur d'affaires.
Alors, on va parler de ce nouveau service avant. J'aimerais bien revenir quand même sur toute la création et le développement de l'entreprise. C'est quoi les enjeux? Le premier enjeu, j'imagine que c'est de trouver des clients.
Oui.
Le truc le plus important, comment ça s'est passé et quelles ont été les difficultés peut-être que vous avez pu rencontrer?
Oui, alors je dirais même que le premier enjeu, ça aurait été de vraiment apprendre son travail.
D'accord.
D'apprendre son travail, parce qu'après on va dire que ça s'est fait tout seul. On peut trouver beaucoup de clients si on ne travaille pas comme il le faut, on n'aura plus de clients à la fin.
Ouais.
Donc l'idée, ça a vraiment été de se former. J'ai pris le temps vraiment de me former, de demander beaucoup de conseils. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans le domaine du nettoyage. Et justement, ils m'ont pris un peu sous leur aile dès le début pour apprendre à travailler. Et une fois que j'ai vraiment appris à travailler, maintenant ça a été la recherche de clients.
Ouais.
Et pour la recherche de clients, c'est sûr que ce n'est pas facile au début. Ça peut être plus facile que difficile si on s'y prend de la bonne manière. Alors, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y a une bonne manière en particulier pour trouver des clients, parce qu'il y a tellement de domaines, il y a tellement de façons de faire qu'il n'y a pas une façon en particulier pour en trouver. Mais premièrement, moi, ce qui a fonctionné, ça aurait été de faire un site internet et de me faire référencer sur internet. Au tout début, j'avais essayé, on va dire comme à l'ancienne, prospecter avec des flyers dans les boîtes aux lettres, sur les voitures, laisser des cartes de visite, se faire connaître. C'est sûr que ça peut fonctionner. Mais avant tout, il faut d'abord qu'on nous donne notre chance. Parce qu'après, c'est le bruit qui court.
Le
bouche à oreille, pardonnez-moi. Ouais. Qui va faire justement après se faire connaître. Donc, j'ai commencé comme ça. Et ça n'a pas eu beaucoup de résultats. En tout cas, parce qu'il fallait, on va dire, du résultat rapidement.
Ouais.
Du coup, après, le fait d'avoir fait un site internet, d'avoir investi dans un référencement naturel, de s'être fait connaître sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, LinkedIn, les passages comme on a fait ensemble à la radio ou dans les journaux locaux, ça m'a permis après de me faire connaître.
Okay.
Et du coup, on en revient à la première étape que je voulais mettre en place, le bouche à oreille. Ouais. Puis après, le bouche à oreille a pris le dessus. Une fois que les clients m'ont donné leur chance, le bouche à oreille a pu surpasser cela. Et du coup, c'était le bouche à oreille qui a après surenchéri derrière ça.
Et donc, au bout d'un moment, il n'y a plus besoin que juste de décrocher le téléphone. Et,
on va dire, grosso modo, c'est ça. Alors, après, on reste aussi dans une ville qui se développe énormément, où les entrepreneurs aussi se développent énormément. Il faut toujours se renouveler. Aujourd'hui, si on arrête de travailler notre référencement, notre communication, on ne peut pas dire qu'on aura encore des appels dans 2 ans. Donc ça demande toujours des mises à jour, mais on parle d'évolution et pas de nouveautés, on va dire.
D'accord. Il y a quoi d'autre comme enjeu? C'est le... Vous avez fait un choix, par exemple, c'est l'éco-responsabilité au niveau des produits que vous utilisez. C'est travailler en étant, en ayant bonne conscience, c'est ça, en accord avec vos valeurs.
C'est ça. Alors, c'est vrai que c'est un enjeu particulier, il est un peu pointilleux quand même. Aujourd'hui, ça plaît à beaucoup, l'éco-responsabilité, pas à tout le monde, mais ça plaît quand même à beaucoup. Maintenant, il faut prendre en compte qu'il y a un coût. Ouais. Et qu'aujourd'hui, on a des belles valeurs, mais souvent, financièrement, on ne peut pas tout se permettre. Donc l'idée, c'était de jouer avec l'éco-responsabilité pour nos belles valeurs, mais de jouer aussi sur des tarifs attractifs, ce qui était plus compliqué. Donc la solution que j'ai trouvée, en fait, c'est de ne pas impacter les prix de nos produits éco-responsables à nos prix de nos prestations. Donc aujourd'hui, notre marge, c'est sûr qu'elle est moins intéressante que peut-être d'autres sociétés qui proposeront des prix des produits qu'on trouve en grande surface. Maintenant, c'est sûr qu'on va dire qu'il n'y a pas de prix quand on aime. Donc, ouais. Pour les valeurs, ça a été un petit sacrifice, mais aujourd'hui qui porte ses fruits, car beaucoup de clients nous ont sélectionnés pour ça. Ils sont contents d'être avec nous aujourd'hui parce que justement, on propose de protéger notre planète parmi notre travail.
Très bien, un nettoyage éco-responsable.
C'est ça.
Bon, aujourd'hui, l'entreprise, ça fait presque un an. Alors, pas aujourd'hui, ce sera la semaine prochaine, l'anniversaire, c'est ça ?
Ce sera la semaine. Très juste. C'est jeudi prochain.
Ouais, c'est
très
ça.
Très juste.
Au bout d'un an, là, le premier, si on peut faire un premier bilan, comment. Peut-être la grosse difficulté que vous n'aviez pas imaginée, je ne sais pas, le point où vous vous étiez pas dit, mince, ça va être embêtant. Et puis après, on fera le point positif.
Oui, complètement. En termes de nettoyage, c'est qu'il y a beaucoup de demandes.
Ouais.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix de demandes aussi auxquels je n'avais pas pensé. C'est vrai que, par exemple, le rattrapage de sol, un exemple concret, c'est vrai que je ne m'étais pas attardé dessus.
C'est-à-dire, c'est quoi le rattrapage de sol ?
Le rattrapage de sol, par exemple, après peut-être un sinistre, après des travaux, après même des travaux, entre guillemets, qui sont mal déroulés, on a des résidus de peinture, de colle, de mastic, etc. Et je ne m'étais pas attardé dessus. Donc, c'est sûr qu'au début, je n'ai pas pu répondre à cette demande. Ouais, et c'est là où je me suis dit, c'est vrai qu'il faudrait peut-être se pencher à proposer justement plus de choix. Donc après, j'ai pris le temps de me former, etc. Aujourd'hui, je propose tous ces services. Et sinon, une chose auquel je n'avais pas pensé, c'est vrai que, comme je vous le disais, je travaille avec des produits éco-responsables.
Ouais.
La concurrence, non. Donc, parfois, peut proposer peut-être des tarifs qui peuvent être plus attractifs.
Ouais.
Et bien, c'est vrai que je me suis dit qu'il faudrait aussi pouvoir jouer encore plus sur ça. Et c'est pour ça que, du coup, en fait, avec du recul, on a encore décidé de baisser nos prix pour pouvoir répondre encore plus à plus de demandes.
D'accord, mais il faut rester rentable quand même.
Il faut rester rentable. Alors, on peut toujours rester rentable dans le nettoyage, en toute transparence, parce que ça reste du service à la personne, ou en tout cas du service. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a très peu de matériel, de frais, très peu de frais de produits, à condition de bien savoir justement l'économiser et bien savoir l'utiliser. Donc après, ça nous permet nous-mêmes de réduire notre marge, mais de rester rentable par rapport à notre travail.
D'accord. Et alors, le point positif, est-ce que vous en tirez je ne sais pas, dans la surprise que vous avez eue ou même l'enseignement que vous tirez de ces un an d'entrepreneuriat.
Eh bien, ça va être par rapport à mon âge. C'est vrai qu'on l'a dit, hein, j'ai 18 ans, je vais sur mes 19 ans jeudi, justement.
Ouais.
J'avais quand même un peu peur de ça. Je savais ce que...
Ce que les gens pourraient en penser,
exactement.
Se dire, c'est qui ce petit jeune
Exactement. Qu'est-ce qu'il pourrait nous apprendre, je ne veux rien apprendre à personne, mais est-ce qu'il connaît vraiment son métier? Il n'a pas forcément d'expérience. Honnêtement, je comprends complètement ses arguments, mais j'en ai eu aucun. C'est vrai que j'en ai eu aucun de ces arguments et ça a été que du positif et que du plus. Beaucoup justement ont voulu me prendre sous leur aile, des clients avec qui je collaborais étroitement, des chefs d'entreprise qui ont voulu me prendre sous leur aile parce qu'ils se revoyaient 10 ans avant quand des personnes leur ont tendu la main. Des personnes à domicile en fait qui me prennent, on va dire, comme leur fils ou même juste comme des personnes amicalement. Et c'est vrai qu'en fait justement ça a été même, on va dire, une superbe opportunité d'être jeune parce que beaucoup ont voulu m'aider, beaucoup ont voulu me faire confiance et beaucoup ont eu confiance dans l'idée de se dire que j'ai 18 ans seulement et que je me lance déjà dans une activité, c'est que je sais faire ce que je propose. Donc c'est vrai que finalement, ça a été que du plus.
Très bien.
J'en suis très content.
Et c'est agréable à entendre en tout cas. Moi, il y avait une chose qui m'avait étonné la première fois qu'on s'était rencontrés. Vous m'avez dit que quand vous avez créé cette entreprise, l'un des enjeux et l'une des envies que vous aviez, c'était d'être autonome, de prendre vos décisions vous-même pour pouvoir aménager votre emploi du temps.
Exactement.
Et être le plus libre possible. C'est réussi ?
C'est réussi.
C'est pas chronophage de gérer l'entreprise.
Alors, c'est vrai que ça prend du temps.
Ouais.
Maintenant, justement, l'idée, c'était de pouvoir pallier. Il y a eu une période, après que l'on se soit vu de ce début d'année, où j'ai travaillé plus que ce que je souhaitais. Parce que, en fait, justement, c'était le temps de changer de rampe, on va dire. Maintenant, aujourd'hui, c'est résolu. C'est sûr que ça prend du temps. C'est chronophage de gérer une entreprise. Maintenant, si on arrive à y pallier avec, justement, le travail sur le terrain, donc le fait de nettoyer, de réduire notre temps de travail en physique pour concentrer davantage de temps à notre travail, on va dire, intellectuel, de gestion, plutôt, je devrais dire, ça rentre dedans.
D'accord.
C'est comme je disais, début janvier, on devait assurer le travail en physique. Et du coup, maintenant, la nouvelle gestion, et comme on le dira dans quelques instants, du nouveau projet de cette société, ça a demandé un petit mois d'adaptation. Et maintenant, c'est super. Et justement, c'est ce nouveau projet qui me permet de
gagner du temps.
De gagner du temps, d'alléger en tout cas l'emploi du temps en physique.
L'idée du nouveau projet, c'est de faire quoi exactement? Vous l'avez dit, mais j'ai perdu le mot.
Alors en fait, c'est d'être apporteur d'affaires, courtier, on peut dire, ou mise en relation, metteur en relation. J'ai remarqué justement dans cette année qui a été riche en expérience que beaucoup cherchaient du travail, d'autres entrepreneurs, d'entreprises, de groupes cherchaient du travail, mais ne le trouvaient pas forcément. Et que d'autres clients avaient des besoins très spécifiques et des besoins auxquels même qui étaient vastes, mais que moi je ne pouvais pas assurer seul, et bien chercher des prestataires. En fait, l'idée, c'était de les mettre en relation.
Okay.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on le disait, la communication, le bouche à oreille, le site internet, la radio, les réseaux sociaux, en fait, on arrive à un point où la demande justement est forte, que moi je ne peux pas l'assurer seul, et que je ne souhaite pas l'assurer seul dans l'idée que on souhaitait justement avoir un emploi du temps qui nous permette de vivre à côté, on va dire, du travail, ce qui n'est pas toujours facile quand on est à notre compte.
Bien sûr.
Et du coup, au lieu de perdre cette demande, comme avant je la laissais passer, je me suis dit, en fait, beaucoup m'appellent parce qu'ils cherchent du travail, et bien l'idée, ça va être de pouvoir les mettre en relation.
Okay.
Alors comment on fonctionne? C'est l'idée d'être rapporteur d'affaires, on appelle ça. Aujourd'hui, un client qui va m'appeler pour un nettoyage de fin de chantier, par exemple, ou un nettoyage de vitres, dont moi je ne vais pas les réaliser, je vais justement prendre des informations dessus. Donc par téléphone, la maison fait combien de mètres carrés? Vous souhaiteriez un nettoyage à partir de quand? Qu'est-ce qu'il y aurait à nettoyer? Le plus d'indications possibles. Une fois que la personne m'explique tout cela, je vais lui dire j'ai quelqu'un à vous présenter. Et de l'autre côté, avec l'autre téléphone, je vais appeler justement des prestataires de confiance, et c'est des amis avant tout. C'est pour ça que je souhaite collaborer avec eux. Au moins, je suis sûr que le travail sera réalisé avec confiance, sérieux et honnêteté. Et en fait, je vais expliquer la demande.
Okay.
Et en fait, en recueillant aussi ces informations niveau tarifaire, eh bien en fait, je vais les représenter au client. Et une fois que le client valide, eh bien je les mets en relation.
Okay.
Et ça permet justement en fait, au client de trouver un prestataire, au prestataire de trouver un client, et moi justement de pouvoir aider, de pouvoir aussi travailler de ce côté-là.
Et prendre une petite commission au passage en ayant organisé tout ça.
Exactement, à la signature du contrat.
Et du coup, ça veut dire que là, le travail, il va se baser plutôt sur le réseau. Il faut avoir des
très
prestataires,
juste,
suffisamment de prestataires pour répondre à toutes les demandes. Est-ce que vous cherchez du coup autant de personnes qui ont besoin de nettoyage que de personnes qui en font ?
Eh bien, on va dire qu'une demande de nettoyage, elle peut être effective aujourd'hui, ne plus l'être pendant 5 ans.
Ouais.
Une personne qui va travailler, elle est effective aujourd'hui, elle peut l'être pendant 5 ans. Donc on va dire qu'aujourd'hui, le plus important, c'est d'avoir des personnes qui vont pouvoir assurer la demande.
Ok.
Quitte après à retrouver justement des demandes pour cela. Donc là, l'idée d'aujourd'hui, ça va être aussi d'accroître le réseau, de pouvoir collaborer avec d'autres personnes, mais avant tout de pouvoir les rencontrer, le fait d'échanger, de voir si ça peut coller. Et si justement leurs valeurs sont en conformité avec les miennes, leurs besoins sont en conformité avec les miens, eh bien ça va pouvoir justement nous permettre d'agrandir ce réseau.
Et donc c'est trouver d'autres auto-entrepreneurs.
D'autres auto-entrepreneurs, mais d'autres aussi entreprises, EI, EIRL, SARL, et d'autres groupes aussi. J'ai l'habitude aussi de collaborer avec des grosses entreprises qui cherchent des gros contrats. On parle par exemple de nettoyage de fin de chantier, de lotissement qui comporte des vingtaines d'appartements.
Ouais.
Et bien justement, elles sont très friandes de ce genre de demandes, et c'est l'idée de les présenter. Et cette force en plus que notre société Sopropre a, c'est qu'aujourd'hui, étant donné que nous sommes auto-entrepreneurs et qu'on met au maximum notre authenticité et notre humanité en valeur, et bien en fait, beaucoup, même de gros groupes, de grosses entreprises qui cherchent à faire travailler des personnes comme moi vont nous contacter, nous, plutôt que d'autres grosses entreprises.
D'accord.
Et c'est à nous, après, avec le relationnel, on s'entend très bien avec nos clients, justement, de pouvoir sympathiser et après de pouvoir leur présenter d'autres personnes.
Très bien. Bon, bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite.
C'est gentil, merci.
Vous l'avez dit, l'entreprise s'appelle Sopropre. Il y a un site internet sur lequel on retrouve toutes les infos, mais je crois que si on tape Sopropre dans la barre de recherche...
On tombe dessus.
On tombe directement dessus.
Isto-propre.com aussi.
Ouais, parce qu'il y a eu un super travail de référencement, c'est ça ?
Je pense que c'est plutôt pas mal.
Très bien, parfait. Merci beaucoup, Enzo, d'être venu nous en parler. Bah, bonne continuation dans vos projets, et puis au plaisir, pourquoi pas.
Peut-être qu'on se reverra pour refaire un bilan demi-année. Merci beaucoup, en tout cas.
À bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, ça n'a pas grand-chose à voir à part le titre. On écoute Orelsan tout de suite. Voici du propre.
San. Est-ce que tu peux garder tes AirPods dans tes oreilles quand je te parle, s'il te plaît, bâtard? Ouais.
Ok.
Son, son, son. Ah bah c'est du propre.
C'est du propre.
5h du mat sur le port, un dernier shot. C'est pour ma ville, sauce magique, beau gosse.
Sauce magique, sauce magique.
Mort en ville quand elle est morte.
Mort en ville quand tout le monde dort.
Autopilote,
autopilote.
Encore un dernier shot.
Shot, 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 shot.
Allez hop.
Allez hop. Ok.
C'est du propre.
C'est du propre. C'est du propre.
Je te dirai comme disaient les profs.
C'est plus possible, c'est plus possible.
C'est plus possible, mais tu forces. Enfoiré, pourquoi tu forces? J'ai honte quand je vois ce que tu postes. C'est toujours les mêmes trois suceurs dans tes coms. Qu'est-ce que tu me sors? T'es du genre qui drague en rabais sans ses potes. Suis ton boss. La vie c'est facile, t'as juste à faire mon job. Dernier shot. J'pète
une clope.
Quelle époque, mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. C'est du propre. Roi de la pop. Roi de la pop, tu suis la mode, on fait la mode.
Tu suis la mode, on fait la mode.
C'est relou d'être relou.
Hey, ça,
mets pas d'emojis dans les messages, on s'embrouille. Casse pas les couilles, je veux pas ton avis sur tout. D'ailleurs, je veux pas que tu m'écoutes. Pressé d'arrêter, j'envisage de faire un mytho. Je vois tout en double, shot, remets une couche. Ah, numéro 4 Dangerous. Ah, la mémoire est courte, c'est moi qui ai ouvert l'autoroute. Son, 30 fois le salaire de tes profs. Pour dire de la merde à tes gosses. Devant la lune en picross. Redis-le. Ça parle que de stream, ça parle que de clics, ça parle que de chiffres, de bénéfices. Bâtard, t'es fan de comptabilité, t'es qu'une merde si tu veux mon avis subjectif. Je vois mes fans grandir avec moi, j'en vendrai jamais n'importe quoi. Je veux pas devenir une erreur de jeunesse que tu regrettes quand tu grandiras. Wow, quelle audace derrière ton clavier. Des fois je repense à ceux qui me clashaient. Je veux dire, je me demande où ils sont passés. T'es comme l'intro d'Eclipse, t'es zappé. Tu me demandes si ta musique est claquée. Ça commence par bas, ça finit par ouais. J'efface ton numéro si t'envoies juste un point d'interrogation. T'étais en manque d'affection, maintenant t'as une infection. Ah bah c'est du propre.
C'est du propre.
5h du mat sur le port, un dernier shot. C'est pour ma ville. Sauce magique, beau gosse.
Sauce magique, sauce magique.
Mort en ville quand elle est morte.
Mort en ville quand tout le monde dort.
Autopilote,
autopilote.
Encore un dernier shot.
Shot, 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 shot.
Allez hop, allez hop.
Ok.
C'est du propre.
C'est du propre, c'est du propre.
Je dirais comme disaient les profs. C'est plus possible, mais tu forces. Enfoiré, pourquoi tu forces? J'ai honte quand je vois ce que tu postes. C'est toujours les mêmes trois suceurs dans tes coms. Qu'est-ce que tu me sors? T'es du genre qui drague en rabais sans ses potes. Suis ton boss. La vie c'est facile, t'as juste à faire mon job. Dernier shot. J'pète
une clope.
Quelle époque, mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque.
C'est du propre.
Roi de la pop.
Roi de la pop,
tu suis la mode, on fait la mode.
Tu suis la mode, on fait la mode.
C'est relou d'être relou. Pourquoi t'es relou?
Bien sûr, sur Calade avec le titre du propre.
Alimentation, santé.
Ensemble sur Calade.
Allez, on parle d'alimentation et de santé. Pour ça, tout de suite, on retrouve Charline Simian. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On a commencé une série sur la digestion. Et la semaine dernière, on parlait de mastication, la première étape quand on mange.
Tout à fait.
On en est où, du coup?
Alors, pour ceux qui n'auraient pas très bien suivi les cours de bio à l'école, SVT maintenant pour les plus jeunes d'entre nous, en dessous de la bouche, il y a un tuyau qui conduit à l'estomac qui s'appelle l'œsophage. Donc, il y a un très court temps dit œsophagien dans lequel il ne se passe pas grand-chose hein, parce que du coup... c'est juste le tuyau de descente. Alors, il y a quelques glandes qui vont sécréter un petit peu de mucus pour pas qu'on s'étouffe avec l'aliment, mais en réalité, c'est vraiment la gravité qui fait son travail sur ce temps œsophagien sur lequel on n'a pas main mise parce que c'est finalement quelque chose qui est automatique, qui a été déclenché par la déglutition.
Ok.
Donc ce temps-là prend assez peu de temps et on n'a pas beaucoup d'impact à avoir dessus. En revanche, le temps d'en dessous, le temps gastrique, c'est ce qui se rapporte à l'estomac, a une importance essentielle. L'estomac, c'est cette poche dans laquelle il y a énormément d'acide, où va se passer pas mal de choses. Alors on pourrait se dire, l'acidité tue tout et donc ça dissout tout, comme on imagine mettre de l'acide sur quelque chose et ça va le dissoudre et faire beaucoup de mousse. Alors en réalité, l'action de l'acide est très importante, effectivement, parce qu'elle a cette vocation à tuer les bactéries.
Okay.
Mais par exemple, quand on prend un traitement, on peut se dire, mais du coup, le traitement ne va pas être efficace parce qu'il est cassé par l'acide. Et effectivement, quand on a besoin de prendre un traitement et qu'il soit absorbé plus loin que dans l'estomac, il faut qu'on ait quelque chose de gastro-résistant, donc qui résiste à cette attaque acide. Donc les deux fonctionnements au niveau de l'estomac, c'est effectivement cette attaque acide. Il faut savoir que cette attaque acide, elle commence déjà très tôt parce qu'en fait, l'acidité de l'estomac va varier un petit peu au cours de la journée. L'acidité augmente en réalité par un temps au moment où on commence à mastiquer, en réalité peut-être même un petit peu avant, où l'organisme se prépare à recevoir ce bolus alimentaire. Donc l'acidité commence à diminuer, parce que le pH s'est inversé. Quand le numéro de l'acide diminue, un pH acide à 3-4, c'est très acide. Un pH acide à 12, c'est pas du tout acide.
Ouais. Ok.
Et donc, cette acidité va se développer rien qu'à la vue des aliments. On commence déjà. C'est aussi pour ça que les gens qui vont mâcher beaucoup de chewing-gum vont parfois avoir des aigreurs et d'estomac, tout simplement parce que mécaniquement, quand on mâche, le cerveau, lui, imagine qu'on va avaler quelque chose. Et quand on mâche un chewing-gum, on l'avale par inadvertance, mais on ne l'avale pas très souvent et on n'en avale pas beaucoup dans la journée. Effectivement, ça peut entretenir ce phénomène d'acidité de l'estomac, qui a, lui, plutôt une tendance à faire de l'acide, du plus acide en tout cas, uniquement quand on va digérer quelque chose, du coup.
Alors moi, je me demande si l'estomac, c'est une poche acide, comment est-ce qu'on y fait, surtout pour ne pas détruire ce qui est intéressant dans la nourriture, les nutriments, les sucres, et tout ça.
Alors, ça détruit en fait la grosse molécule, mais ça ne détruit pas tout. Donc en fait, c'est comme si dans la bouche, vous aviez commencé avec des ciseaux de couturière. Là, vous passez sur une scie sauteuse plutôt. Voilà.
D'accord.
On est plutôt là-dessus en termes d'outillage. Donc la digestion au niveau de l'acidité de l'estomac, il n'y a pas grand-chose en réalité qui soit absorbé. À part un certain nombre d'acides aminés, donc c'est les constituants des protéines. C'est pour ça qu'on associe déjà en général un certain nombre de traitements justement à ces fameux acides aminés pour qu'ils soient absorbés plus rapidement. C'est le cas notamment des ibuprofènes action rapide où on a effectivement un couplage à un acide aminé qui lui va être reconnu par l'estomac et absorbé par l'estomac. Donc on a ça, on a cette phase-là, cette phase acide, mais on a aussi une phase très mécanique. L'estomac, c'est une poche, effectivement, qui est très musclée. C'est ce qui peut aussi malheureusement entraîner pour les gens qui ont un défaut de clapet, parce que au sommet justement de l'estomac pour pas qu'on brûle l'œsophage. Il y a un clapet qui referme de manière assez hermétique l'estomac quand rien ne passe. Et donc, du coup, effectivement, ça va permettre de broyer les aliments par cette paroi musculaire. C'est aussi ce qui est un peu problématique quand on mâche pas assez, c'est qu'à la fin de l'estomac, de l'autre côté, à l'autre bout, à sa jonction avec l'intestin, il va laisser passer des aliments qui font entre 5 et 7 mm, pas plus.
D'accord.
C'est-à-dire que tant que les aliments ne font pas 5 à 7 mm, l'estomac va broyer, va se contracter, c'est ce qui peut demander énormément d'énergie et obliger à cette fameuse sieste qu'on évoquait la dernière fois.
Ok.
Et puis, c'est ce qui peut fatiguer et aussi parfois, quand on a mangé trop rapidement, donner cette impression d'être gonflé justement au niveau du haut du ventre, donc au niveau de l'estomac, parce que finalement, cette poche se distend. Alors, cette poche, elle peut se distendre effectivement et c'est ce qui va faire qu'elle va se contracter d'autant plus. Un muscle, on sait que quand on l'étire, il va se contracter par réflexe. C'est exactement ce qui se passe dans l'estomac. On met des choses dedans, ça étend le sac qui va se contracter par réflexe. La problématique qu'on va rencontrer souvent en consultation, c'est qu'on a des patients qui pensent, c'est encore une idée reçue, que l'estomac se distend. Donc, plus je mange, plus je vais avoir besoin de manger pour remplir mon estomac qui va être détendu finalement, qui va prendre plus de volume. Dans la réalité des faits, ça n'est pas le cas. C'est juste une tolérance de votre estomac à plus d'aliments, mais il n'est pas plus gros. De même, quand je ne vais pas manger, je ne vais pas, chez les patientes anorexiques, avoir un tout petit estomac tout rabougri. Non, c'est encore une notion de sensation plus que de fait réel.
D'accord. Mais pourtant, il me semblait qu'on pouvait faire des réductions d'estomac ou...
Alors, on fait des réductions d'estomac chez les patients qui sont opérés de chirurgie bariatrique, quand on leur met un anneau gastrique, par exemple, ou quand on fait des opérations comme un bypass ou comme une sleeve. Là, on coupe l'estomac, alors pas sur toutes. Sur l'anneau gastrique, par exemple, on met juste une ceinture au milieu de l'estomac où ça fait une petite poche de la taille d'un yaourt en haut, une autre petite poche de la taille d'un yaourt en bas. Mais en réalité, on ne réduit pas factuellement la taille de l'estomac. Pour les autres interventions, en revanche, oui, là, on a une tendance à réduire parce qu'on coupe un bout de l'estomac.
D'accord.
Mais c'est parce qu'on le coupe, c'est pas parce qu'on l'oblige à être plus... parce qu'on le nourrit moins et qu'il est plus petit de manière innée. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis.
Si, je vois, je crois.
Sans une chirurgie, on réduit pas l'estomac. Voilà, c'est plus clair comme ça.
Très bien, donc on a une taille d'estomac et elle bougera pas et... Et ça veut dire
exactement. On a une habitude plus importante, plus ou moins importante, à le remplir plus ou moins, et il est plus ou moins fonctionnel selon qu'on a un acide qui est efficace. Par exemple, quand on prend des antiacides, la digestion sera parfois plus compliquée parce que l'acidité ne fera plus son rôle.
Très bien. Et
souvent, quand on prend ces antiacides, c'est pour ne pas souffrir de trop d'acidité.
Évidemment. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Charline, pour cette explication sur l'estomac. J'ai l'impression d'être dans le dessin animé « Il était une fois la vie » avec les petits bonhommes qui courent dans le corps humain.
Je vais prendre ça pour un super compliment parce que cette série est très bien faite.
Eh ben ouais, j'ai l'impression de tout comprendre. Merci beaucoup, Charline.
Merci à vous. Bonne fin de journée.
À très bientôt.
À bientôt.
Ensemble sur Calade.
Tiens, j'ai pris un petit peu d'avance sur le parcours. Voici les VRP avec un morceau qui s'appelle « Blues intestinal ».
Pas à l'aise un peu après midi, Il regrettait les fraises et la crème chantilly. Du remords, il avait regretté d'avoir pris trois fois du cassoulet et bien 18 demi. N'avait pas mauvais fond, sa démarche moins naturelle semblait briller son pantalon. Mais au détour d'une ruelle, serrant les fesses, il aperçut, oh non, l'aubaine était trop belle, mais si un shot de coup en vue.
On ne saura pas le fin mot de cette histoire, il faut absolument qu'on passe à la suite de l'émission.
C'est sur l'économie que c'est la richesse de la commune.
Ensemble sur Calade.
Le prof Patrick.
Et oui, c'est l'heure de retrouver le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, on avait commencé une nouvelle série la semaine dernière.
Une nouvelle saga.
Sur la politique industrielle.
Bah oui, parce que ça revient dans les conversations. Macron nous dit qu'il faut réindustrialiser la France, l'Europe dit la même chose, etc. Donc ça, on va en parler, mais semaine prochaine.
D'accord. Pour l'instant...
Parce que, voilà, la semaine dernière, on a parlé en fait de ce qu'est la politique industrielle, de comment elle a été menée après la Deuxième Guerre mondiale en France jusqu'au début des années 80. On a vu que les Allemands avaient une conception différente de la politique industrielle, hein, fondée sur ce qu'on a appelé l'ordolibéralisme, qui fait qu'en fait, pour eux, c'est plutôt de la politique de la concurrence, c'est pas tellement de la politique industrielle. Et on a vu que cette conception s'est imposée dans l'Union européenne à partir des années 80. Et bien donc, on va, comme tu l'avais dit, reprendre à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui et voir ce qui s'est passé, voir comment est advenu et pourquoi ce déclin industriel en France. Oui, parce qu'il y a déclin. Hein. L'industrie, c'était 24% de la création de richesse du PIB français en 1980, ce n'est plus que 13%.
Okay.
L'industrie, c'était 5 millions d'emplois en 1980, ce n'est plus que 3,5 millions d'emplois.
Ouais.
Donc on va examiner les causes, deux grandes catégories de causes, les causes structurelles, les causes lourdes, et les causes conjoncturelles, les causes événementielles, on va dire. Dans les causes conjoncturelles, j'aurai deux catégories, on verra plus tard. Alors, dans les causes structurelles, première partie, je me base sur une étude lourde de l'INSEE faite sur les années 80-2007. Alors, première cause structurelle de ce déclin industriel, il y a environ un quart des emplois industriels qui ont été perdus à cause de l'externalisation. Tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que l'externalisation?
Oui. Exactement.
C'est le fait qu'une entreprise confie à d'autres entreprises certains aspects de son activité. Par exemple, une entreprise industrielle va confier à une entreprise spécialisée la restauration. Mmh. Elle va confier à une entreprise spécialisée le nettoyage. Elle va confier à un cabinet d'experts comptables une partie de la comptabilité, etc., etc. Alors ça, ce n'est pas vraiment des emplois détruits, c'est des emplois transférés. Et ça représente 480 000 emplois sur la période que j'ai citée. Attention, ce n'est plus qu'une partie marginale des destructions d'emplois depuis 2000, c'est 1 à 5%. Donc ça, les effets sont terminés. Donc on va plutôt s'intéresser aux deux causes suivantes structurelles. Deuxième cause, les gains de productivité. Mmh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être plus productif, ça veut dire qu'on arrive à fabriquer plus dans un même temps.
Mmh,
d'accord?
Oui.
Alors ça, c'est très bien pour la compétitivité. Sauf que si le marché ne se développe pas suffisamment, eh ben on supprime des emplois. Ah oui, il y avait besoin de 3 ouvriers pour fabriquer 10 pièces. Il n'y a plus besoin que de 2 ouvriers. Ben, on supprime un poste d'ouvrier.
Ouais.
D'accord? Et si on rajoute à ça le fait que la demande se porte de plus en plus vers les services et de moins en moins vers l'industrie, eh bien, effectivement, la demande ne progresse pas assez. Donc, il y a des destructions d'emplois. Et ça représente 29% des destructions d'emplois entre 80 et 2007. Et depuis 2000, c'est les deux tiers des destructions d'emplois qui sont dues à la productivité, qui supprime des emplois et pas assez de gains de parts de marché en contrepartie. Troisième catégorie de cause, bah les pays émergents, monsieur, dame. On échange de plus en plus avec les pays émergents, Chine, Inde, Turquie, Afrique du Sud, Brésil, etc. Et résultat, bah en fait, il y a des trucs qui sont faits par les pays émergents. Mmh. Alors ça, il y a un gros débat, hein. Parce que l'INSEE dit que ça fait 13% des emplois industriels perdus entre 80 et 2007. Il y a d'autres économistes, par d'autres études, qui disent non, c'est 40%.
Ah ouais,
ils ne sont pas d'accord.
C'est une sacrée différence.
Une chose est sûre, c'est que cette cause-là, depuis 2000, est encore plus importante.
D'accord.
Donc, les gains de productivité et l'impact des pays émergents, c'est aujourd'hui la quasi-totalité des destructions d'emplois depuis 2000. Ça, c'était la première catégorie de causes. La deuxième catégorie, j'ai appelé ça les causes conjoncturelles, les événements. Je vais diviser ça en deux sous-catégories. Un, les événements politico-économiques.
Ouais.
Alors, c'est par exemple le ralentissement économique très violent au début des années 90, après la première guerre du Golfe. Bon, ben, l'industrie se casse la figure. À partir de 97, l'économie mondiale redémarre, l'industrie reprend du poil de la bête, l'industrie française. Et c'est ainsi que c'est en 2000 qu'on atteint le pic de la production industrielle, on fera jamais mieux.
D'accord.
Attention, en 2000, le pic, c'est un point de pourcentage de plus qu'en 90. Le gain sur 10 ans a été ridicule. Donc ça, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit qu'on, de façon sous-jacente, ça sent pas bon, cette histoire. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, les chiffres sont de 2017, mais ça n'a pas changé fondamentalement. Donc, la production industrielle française est de 13% inférieure à celle de 2000 et de 12% inférieure à celle de 90. On est sur une chute terrible.
Ouais.
D'accord ? Alors, ok, depuis 2013, il y a une politique de l'offre menée par Hollande et Macron qui a amélioré les marges bénéficiaires des entreprises industrielles. Bah, elles n'ont pas amélioré pour autant l'épargne de marché. Hein.
D'accord.
Ça ne joue pas au niveau d'épargne de marché. Deuxième partie des causes conjoncturelles, on va se centrer sur un truc qui s'appelle la balance commerciale. Est-ce que tu sais ce que c'est la balance commerciale ?
Non, mais j'apprends
pas. T'en apprends des choses, hein ?
Ouais.
La balance commerciale, c'est quand on compare les exportations de biens, les biens, des produits, des chaises, des tables, des ordinateurs, des voitures, et les importations. On fait exportation moins importation. Si notre balance est excédentaire, ça veut dire qu'on exporte plus qu'on importe, donc on gagne de l'argent.
Ouais.
Si notre balance commerciale est déficitaire, ça veut dire qu'on importe plus qu'on exporte, ça veut dire qu'on perd de l'argent.
Ouais.
Alors, notre balance commerciale, elle a été excédentaire jusqu'à 2000. Bon, okay. Attention, c'était un excédent qui n'était pas extraordinaire, c'était plus de 25 milliards. Les Allemands, quand ils faisaient des excédents durant ces 20 dernières années, c'est plutôt plus de 100 milliards qu'ils faisaient.
Ah oui.
On n'est pas dans le même monde. Alors nos champions à l'époque, c'était qui ? C'était l'automobile, Airbus, l'agriculture, l'agroalimentaire. C'était nos champions, ils exportaient massivement, très bien. Sauf qu'après, tout va se dégrader. Après 2000, notre balance commerciale sera déficitaire sans discontinuer. Exemple, en 2011, on est à moins 75 milliards d'euros.
Ouais.
Voilà. Alors évidemment, le prix du pétrole n'y est pas pour rien, hein, parce que la facture pétrolière a été multipliée par 2,5 à l'époque, le prix du baril de pétrole augmentait fort. Mais surtout, derrière, il y avait ces fameuses politiques que j'appelle néolibérales, fondées sur la concurrence et l'ouverture des marchés, qui sont les politiques de l'Union européenne, avec l'ordolibéralisme allemand, qui ont permis l'entrée massive de produits venant de pays émergents. L'entrée de la Chine dans l'OMC a fait ça. L'électronique grand public, par exemple, a disparu. Thomson a disparu. Et les multinationales françaises vont aggraver le phénomène. Parce qu'en fait, elles décident de délocaliser leurs usines de production dans des pays où c'est pas cher, Europe de l'Est, Asie, Afrique, etc. Et ainsi, par exemple, ils ont cessé de fabriquer beaucoup de voitures en France et ils les fabriquent en Espagne, ils fabriquent en Asie, en Afrique, et ces voitures sont réimportées en France.
D'accord.
Et ça dégrade la balance commerciale.
Ah oui.
Donc, résultat, les points forts que j'avais cité, l'automobile, ça se dégrade. L'alimentaire, l'agroalimentaire, ça se dégrade. Ils sont petit à petit dépassés par les concurrents allemands. Alors, ça, je t'ai dit moins 75 milliards de balance commerciale, donc de déficit commercial en 2011. Ça va se calmer un peu entre 2010 et 2015. Petit à petit, on va revenir à moins 45 milliards. Tu vas me dire, c'est pas jojo non plus. Parce que le prix du pétrole baisse, en fait. Donc, c'est grâce à ça. Mais petit à petit, en fait, chacun des bastions de performance de l'industrie perd du lustre, hein, d'accord ? Il n'y a que l'aéronautique qui reste puissant, il n'y a que le luxe, le grand luxe, reste puissant. Tout le reste, ça perd du terrain. Donc, par exemple, entre 2015 et 2020, on est sur des déficits entre moins 50 et moins 60 milliards chaque année. Ouais. Et en 2021, on est même à moins 85 milliards de déficit de la balance commerciale. Voilà. Alors, conclusion de tout ça, donc, tu l'as compris, l'industrie française n'a pas cessé de reculer sous les coups de boutoir de la politique, donc de la concurrence menée par l'Union européenne et en France également. Cette politique est fondée sur la conviction que le libre jeu de la concurrence suffit pour faire émerger des champions. D'accord ? Et qu'il n'est pas besoin que les États interviennent pour booster certains secteurs et que même c'est néfaste. Évidemment, c'est toute la philosophie néoclassique, libérale qui est derrière, contre l'intervention de l'État. Il y a la montée en puissance des émergents, comme je l'ai dit. Il y a les comportements des multinationales qui ont massivement délocalisé, qui ont contribué à ce déclin de l'industrie française et aux chiffres un peu dramatiques qu'on a. Et là, on peut vraiment considérer que malgré une dizaine d'années de politique de l'offre, oui, il y a du mieux dans les marges bénéficiaires, mais en fait, on perd du terrain. On n'a pas enrayé le déclin de l'industrie française. Alors, pour information, à la fin des années 80, il y avait un économiste français assez célèbre, qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Maurice Allais. C'est un économiste très libéral, il était dans le camp intellectuel libéral. Pourtant, qu'est-ce qu'il disait ? Fin des années 80, il voyait venir la montée en puissance des pays émergents et il préconisait quoi ? Il préconisait tout simplement d'instaurer des barrières protectionnistes entre le bloc européen et l'Asie pour contrebalancer les distorsions de concurrence gigantesques au niveau des salaires, au niveau des réglementations écologiques, etc. etc. Il disait, sans ça, on ne va pas tenir. Il a eu raison, il n'a pas été écouté, l'industrie française s'est effondrée. Attention, l'industrie allemande ne s'est pas tant effondrée que ça, l'industrie suisse non plus, etc. etc. L'industrie française. Voilà. Bon, allez, pour en venir à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc, on veut réindustrialiser, on examinera tout ça la semaine prochaine.
Ok, d'accord. C'est la compétitivité, la concurrence qui nous a flingué.
Les politiques de concurrence et les politiques de compétitivité, oui, en fait, que le meilleur gagne, en fait, le meilleur, c'est pas les Européens. C'est les Américains et les Asiatiques.
Ouais.
Voilà, donc, problème pour nous.
Ok, il faut attendre l'émergence d'un champion.
Ouais, on va voir ça.
Parfait. Merci beaucoup, prof Patrick.
À plus.
Ensemble sur Calade.
Et c'est la fin de notre émission Ensemble sur Calade. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Elle sera retrouvée en podcast sur radio-calade.fr. Rediffusion demain matin, bien sûr, à 10h comme d'habitude. D'ici quelques minutes, c'est l'heure de vos pages d'information quotidienne, le journal de RFI à 13h et le journal de Sylvie Rosier à 13h10. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Je vous laisse, avec Clou qui vous demande comment. À tout bientôt, ciao ciao.